rejoindre sur la scène Dominique Averti et Thierry Sprier. Thierry Sprier est vice-président délégué au numérique et à l'innovation pédagogique à l'Université d'Avignon. Et Dominique Averti est vice-président CFVU ici à l'Université de Nantes. Et on leur a demandé à tous les deux un exercice un peu compliqué. Oui, non, mais pas du tout. C'est très confortable aussi dans la salle. Donc je disais qu'on leur a demandé un exercice un peu compliqué et inédit, qui était de nous rendre compte d'un dialogue que sur les deux missions du vice-président, CFVU et numérique, justement, à propos de la FTLV, comment est-ce que ce concept de FTLV qui doit imprégner toutes les missions de nos établissements sont pris en compte avec des périmètres qui se recouvrent et qui se complètent dans les missions de ces deux fonctions de VP qui sont essentielles au fonctionnement de nos établissements. Merci à tous les deux.
Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, on s'est demandé comment on allait pouvoir intervenir en tant que représentants de nos réseaux respectifs sur cette thématique. Les propos qu'on a entendus juste avant, finalement, vont confortent un petit peu la façon avec laquelle on l'a prévu notre intervention. J'ai envie de dire, en revenant un petit peu sur Terre aussi, vous allez comprendre au fur et à mesure de nos propos, et en ce qui me concerne en tout cas, et Thierry dira tout à l'heure ce qu'il en pense, mais comment on vit finalement cette FTLV dans un établissement tous les jours quand on est VP formation? Pour nous, la formation continue, moi je la vois de deux façons actuellement dans les établissements. C'est-à-dire d'un côté des formations qui sont vraiment spécifiques, qui ont été définies pour la formation continue, pour accueillir des publics non initiaux, on va dire. Ça répond à des besoins qui sont souvent non couverts par l'offre de formation initiale. On a tous dans nos établissements une offre de formation importante. Et par contre, il y a des manques. Et donc, on a vraiment besoin de cette formation spécifique. Elle est souvent certifiante. On voit de plus en plus apparaître maintenant de certificats d'université. Hein. On a été habitué à nos diplômes nationaux, nos diplômes universitaires. Et maintenant, on a nos certificats qui permettent de certifier de la qualité d'une formation courte telle qu'on peut la mettre. Et puis l'autre élément pour la formation continue, qu'on appelle souvent la reprise d'études, c'est lorsque le stagiaire se retrouve en immersion dans une formation classique, hein, qui s'appuie sur notre offre de formation généralement accréditée par le ministère, avec une mixité des publics. Et c'est là qu'on voit souvent la difficulté, c'est-à-dire comment être en mesure de mixer ces publics, ces jeunes qui sont encore dans leurs études, qui n'ont pas forcément une préoccupation de l'emploi à ce moment-là, et des personnes qui, elles, viennent chercher de nouvelles compétences à l'université dans un but clair de pouvoir soit retrouver un emploi, soit monter en qualification pour pouvoir obtenir un poste plus intéressant. Donc voilà, le paradigme, il est vraiment là. C'est comment on va passer d'un modèle à l'autre et comment on va réussir à faire cohabiter tous ces publics. Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a des éléments qui sont en faveur de ce changement. On le voit bien, on a un déploiement maintenant d'offres de formation qui s'appuient beaucoup sur des approches par compétences. On a cité tout à l'heure l'AMI RENAPSUP, hein, quand on voit le nombre de personnes qui adhèrent à ce réseau, donc qui est un réseau pour le développement de formation par approche par compétences, on voit que l'ensemble des établissements finalement y vont. On a aussi maintenant le fait qu'on va décliner toutes nos formations par bloc de compétences. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement favorisant pour justement réussir à développer une FTLV. Et puis, ça a été dit, je pense que le plan étudiant qui est en cours de mise en route, qui incite à l'individualisation des parcours, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il va nous permettre justement, en travaillant à l'UE, en travaillant finalement en bloc de compétences, d'inscrire les étudiants non plus dans une formation complète, mais simplement sur des parties. Et puis, ne nous le cachons pas non plus, il y a aussi une volonté des établissements d'aller vers la formation continue, aussi pour des raisons budgétaires, puisqu'on sait très bien qu'on doit aller chercher des moyens ailleurs et pas uniquement auprès de l'État. Et donc voilà, tout ça participe à ce développement. Alors maintenant, en tant que VP, je vois aussi des freins à lever qui sont importants. La première, c'est l'injonction contradictoire à laquelle on est habitué entre finalement une massification de l'enseignement supérieur et une individualisation des parcours. En toute honnêteté, quand on est VP en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur ces éléments-là parce qu'on nous demande d'accueillir tous les étudiants et en mettant pour chaque étudiant en face un parcours individuel. Donc quand on a des formations à 600, 700 étudiants, ça va pas être simple. Je pense aussi à nos collègues dans l'administration, en particulier les services de scolarité. Dès que vous avez une formation, j'ai une formation par exemple à Nantes sur un parcours Europe qui est sur 4 mentions différentes en droit, en langue, en lettres, et j'ai oublié la quatrième, mais ce n'est pas grave. Pour réussir à faire un emploi du temps, ça devient assez compliqué. Et donc l'individualisation va nous poser des questions. Et puis les moyens aussi, faut pas les cacher. On a parlé tout à l'heure d'appels à manifestation d'intérêt, d'appels d'offres dans le cadre du PIA. Ça suffira pas. C'est-à-dire que si à chaque fois on doit répondre à des appels d'offres pour pouvoir financer tous les parcours, il y aura ceux qui auront les moyens, il y aura ceux qui n'auront pas les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il faut qu'on arrive à pérenniser justement ces moyens pour que ça puisse se fonctionner. Et puis, ça a été dit également, les problématiques de systèmes d'information. Actuellement, les systèmes d'information sont en obsolescence quand même par rapport aux besoins qu'on va avoir, puisqu'ils ont été faits pour diplômer nos étudiants dans nos diplômes nationaux, mais par contre pour attester des compétences acquises, pour pouvoir faire de la modularisation, je pense qu'il y a encore des développements importants à faire. Cette individualisation des parcours, elle va passer par un accompagnement, on va dire tout au long de la vie, mais qui commence bien en amont de la formation. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir mettre en place dans les établissements les moyens de pouvoir accompagner chaque stagiaire, puisqu'on est quand même plus sur de la formation tout au long de la vie, pour définir son projet de formation et voir comment il va pouvoir s'insérer dans l'offre qu'on propose. Et ça passera par des contrats de formation. Il faut aussi qu'on mette en place des suivis tout au long de la formation, suivi mais pas uniquement administratif, est-ce que la personne est bien présente, mais vraiment avoir un référent pour accompagner notre stagiaire et puis mettre en place des certifications personnalisées. Tout cela va nécessiter des liens forts à établir entre nos services de formation continue qui ont vraiment une expertise dans le domaine du montage de formation à la carte, nos SUIO qui ont là l'expertise sur l'orientation, sur l'information, et puis les équipes pédagogiques, parce que si on n'arrive pas à entraîner nos équipes pédagogiques dans cette aventure, moi j'ai souvent des freins, non mais moi je m'occupe de formation initiale, je ne suis pas du tout la formation pour adultes, c'est pas mon métier, mais si on veut mixer nos publics, si on veut travailler ensemble, il va vraiment falloir qu'on arrive à travailler avec les équipes pédagogiques. Et tout cela ne pourra pas se faire sans l'apport du numérique. Je vais laisser la parole à Thierry, mais juste pour terminer, à un moment donné, je parlais de difficultés d'emploi du temps, ça veut dire que de toute façon, effectivement, on ne pourra pas accueillir tout le monde dans la même temporalité, de la même manière dans nos formations. Donc il va falloir qu'avec le numérique, on arrive justement à réinventer complètement les formations pour aller sur une véritable FTLV.
Merci. Et pour compléter en fait ta série de plus d'interrogations que de réponses, je vais continuer sur l'aspect du numérique, mais pas uniquement, puisque on compte beaucoup sur le numérique pour accompagner ce déploiement de la FTLV au sein de nos formations initiales. Et ça a été dit et redit déjà ce matin. La première chose à laquelle on pense, c'est à l'hybridation des enseignements, un mixte de présentiel distanciel, qui, soyons raisonnables, ne peut se faire sans le numérique. On a arrêté l'enseignement à distance par envoi postal depuis un moment. Donc on va avoir besoin du numérique et on va avoir besoin de bien utiliser le numérique, ce qui va être assez compliqué aussi. L'intérêt de l'hybridation, c'est aussi d'apporter une phase synchrone-asynchrone dans les enseignements. Et c'est cette ouverture asynchrone qui va être intéressante pour la FTLV, mais c'est cette ouverture asynchrone qui va être la plus perturbante pour les enseignants. Donc, on a l'habitude de faire un cours en présentiel, c'est du synchrone. Imaginer la même relation pédagogique en asynchrone, ça demande aussi une transformation pédagogique. Et c'est peut-être ce qui va nous poser le plus de difficultés, c'est de comprendre que le déploiement du numérique, ce n'est pas un problème de numérique, c'est un problème de transformation pédagogique. en fait, c'est pas utiliser un ordinateur qui est intéressant, c'est de bien l'utiliser. Pour accompagner ces transformations numériques, il va bien sûr falloir s'intéresser aux ressources numériques. C'est des préoccupations qu'on a depuis très longtemps et auxquelles on n'a pas jusqu'ici apporté de vraies réponses satisfaisantes. On est capable de fournir maintenant beaucoup de ressources éducatives libres. Pour autant, on a du mal à les réutiliser. C'est pas dans les... pas encore vraiment dans les mœurs des enseignants, alors que ça l'est beaucoup dans les pratiques étudiantes, qui se précipitent toujours sur Wikipédia pour savoir si ce que vous avez dit est juste. Ça serait mieux qu'ils se précipitent sur nos ressources éducatives. Et donc on a un vrai défi aussi sur l'exploitation des ressources numériques, qui ne sont pas que des ressources de savoir, c'est aussi des ressources d'activité pédagogique qu'il faut savoir mettre en place, mettre en œuvre. C'est encore une nouvelle approche pour les enseignants. Le numérique va aussi avoir une place importante dans tout ce qui est le suivi et l'accompagnement des étudiants. Donc le suivi dans la carrière, on va dire, qui prend une autre temporalité pendant mon passage et repassage et retour à l'université. Donc à travers un portfolio, par exemple, pour pouvoir attester les compétences. Mais tu l'as dit aussi, un vrai problème avec nos systèmes d'information, qui ont du mal à sortir du cadre assez strict de nos diplômes actuels. Demain, que sera une licence? Est-ce que vraiment une licence, ça va être une 180 crédits 180... Quels 180 crédits? Si on est vraiment sur un parcours individualisé, le choix de l'étudiant va peut-être l'amener à avoir plus de 180 crédits pour pouvoir valider une licence. Dans ce parcours individualisé, il faudra qu'on se pose aussi la question de quel contenu permettent d'obtenir quelle licence, si on est encore sur un principe de venir à l'université pour obtenir un diplôme, qui est aussi peut-être une question qu'il faudra soulever. On va avoir aussi un problème de date, puisque quand on dit qu'on a une licence de physique de 1960, on voit bien que c'est daté par rapport au contenu. Quand on aura une licence de physique toujours en 2037, avec le premier module obtenu en 2017, ça va être plus difficile de dater ces contenus. On avait eu un peu cette expérience avec le C2I, passé un moment où en fait on avait un C2I millisivé. Donc c'est peut-être aussi des choses qu'il faudra réfléchir. Dans la liberté, dans les choix individuels, tu l'as très bien dit, ça va amener aussi beaucoup de complexité dans l'organisation des parcours individualisés, parce que des blocs de compétences, d'accord, mais peut-on suivre n'importe quel bloc de compétences n'importe comment, sans prérequis? Donc il va falloir aussi mettre en place tout un système de prérequis, de réseau dans lequel je peux parcourir pour faire mon parcours à l'université, obtenir un diplôme. Donc, tout ça actuellement, nous, dans nos systèmes d'information, c'est un ensemble d'yeux, et puis c'est celle-là qu'il faut avoir et pas d'autre, avec quelques choix possibles. Et on pourra même se poser une question un peu plus loin: est-ce que les blocs de compétences sont attachés à un niveau particulier? Est-ce qu'on passe du L1, L2, L3 quand on est en bloc de compétences? C'est peut-être aussi, et en plus en licence qui peuvent être avec une temporalité autre que du L3. Donc c'est des choses qu'il faudra se poser comme question. Il y a aussi, alors c'est plus un problème de transformation pédagogique, il y a aussi une vraie question à se poser sur l'insertion professionnelle versus la spécialisation, donc la poursuite dans nos masters. Actuellement, on a l'impression que c'est pas compatible, alors que si on s'attache à une transformation pédagogique vers une pédagogie active, on peut imaginer qu'on est sur le même combat. L'acteur de son apprentissage à l'université devient un acteur de son apprentissage en entreprise. Donc, nos étudiants qui ont subi une pédagogie active pendant leur licence sont des personnes qui peuvent continuer à apprendre dans un contexte entreprise, ce qui n'est pas franchement le cas si actuellement on est sur une pédagogie plus transmissive à l'université. Quand ils se retrouvent en entreprise, il leur manque quelqu'un qui leur fasse le cours au tableau. On va devoir aussi se poser la question de notre façon d'imaginer la progression dans nos diplômes. On est actuellement plus sur une spécialisation par l'échec. En fait, on diminue les cohortes et puis il n'y a que ceux qui arrivent au bout qui peuvent continuer. il faut réimaginer la réussite de chacun. Et ça veut dire qu'une réorientation dans le monde professionnel, sans avoir obtenu le sacro-saint diplôme universitaire, est quand même une réussite. Et pour l'instant, ce n'est pas comme ça qu'on compte. Repartir sur une autre formation après avoir fait quelques années dans une licence pour partir sur une autre formation professionnelle ou BTS ou IUT, c'est aussi une réussite. Enfin, c'est des choses qui actuellement on comptabilise pas et parce qu'on ne veut pas voir ça comme des réussites alors que c'est des réussites. Et enfin, il faudra, ça a été dit aussi, réimaginer à chacun son retour à la formation. Donc on doit, dès le début, dès l'arrivée de nos étudiants, leur faire comprendre que c'est leur maison et qu'ils peuvent y revenir quand ils veulent et qu'on les invite à revenir et qu'on les incite. Le passage pour réussir tout ça, c'est passer bien sûr une pédagogie, transformation pédagogique, et je vais plutôt parler de la pédagogie numérique cette fois-ci. Pourquoi pédagogie numérique? C'est un terme qui est un petit peu difficile à dire, même dans la même phrase. C'est surtout l'idée d'avoir un autre rapport au temps. Le numérique permet de perdurer. En fait, quand j'ai une ressource de cours numérique, je peux l'avoir autant de fois que je veux. Quand je vais assister à un cours, c'est du one shot. Il faut que ça soit un bon moment pour moi pour être en capacité d'intégrer ce cours. Donc le numérique offre vraiment un vrai plus pédagogique. Quand il est bien fait, il peut offrir un vrai plus pédagogique. On peut aussi produire, et c'est intéressant dans l'approche compétences, des preuves pérennes des apprentissages, d'acquisition de compétences. Donc on sait bien que dans une approche compétences, ce qui est difficile, c'est la validation des compétences. Là, avec une approche globalisée numérique, on va emmagasiner toutes ces preuves qui permettront à la fin de décider ou de certifier de compétences. Juste un mot sur l'enseignement à distance, sous sa forme hybride ou macro-hybride. Donc hybride, c'est quand une partie de l'enseignement est à distance, et macro-hybride, c'est quand une partie de la promotion est à distance. Alors à distance, en fait, il ne s'agit pas uniquement d'une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance temporelle. C'est surtout celle-là qui va intéresser, je pense, les universités, de façon à ce qu'un étudiant puisse suivre pour partie son enseignement en présentiel et pour partie à distance, que ça soit un bloc complet à distance, mais être quand même dans l'université pour un autre bloc de compétences. Donc c'est cette approche hybride permet surtout de s'adapter aux différents profils et rythmes d'apprenants. Alors les profils et rythmes d'apprenants, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire quand on est en présentiel et qu'on n'individualise pas l'enseignement. Le numérique permettra d'individualiser l'enseignement et donc on espère l'apprentissage. Tous ces apports du numérique sont vraiment la grande porte ouverte pour la FTLV, puisque c'est en individualisant réellement et en s'adaptant aux publics divers qu'on va pouvoir offrir des vrais modules FTLV. Conditions de réussite de cette transformation et de ce passage au numérique, pour passer au pédagogie numérique, il faut accompagner les enseignants pour les former à une pédagogie numérique. Il faut former les étudiants, parce que c'est pas parce qu'on a un compte Facebook depuis ses 12 ans qu'en fait on sait utiliser le numérique pour apprendre. Et il va falloir aussi transformer nos DSI, puisque jusqu'à maintenant, la préoccupation, on va dire, principale de nos directions des systèmes d'information, ça reste quand même le système d'information. Et on a un vrai besoin de numérique dans nos formations, dans notre enseignement, et ça doit monter en puissance. Alors, ça doit être accompagné bien évidemment de moyens conséquents, parce que les DSI sont déjà quand même bien chargés, mais on ne pourra pas faire de la pédagogie numérique sans avoir un soutien technique derrière. Et il en va de même pour l'enseignement hybride à distance, macro-hybride. Il faut former les enseignants, parce que c'est un autre type d'approche pédagogique. Il faut former les étudiants, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de formation, donc il faut aussi les accompagner. Et il faudra aussi imaginer un accompagnement des enseignements en ligne. On sait bien que quand on fait de l'enseignement à distance, il y a une relation pédagogique, mais il y a aussi une relation motivationnelle qui est importante et qui, peut-être, ne serait pas dévolue obligatoirement à l'enseignant. Juste pour finir, après avoir transformé nos formations initiales pour accueillir à bras ouverts la FTLV, après avoir mis L'étudiant au centre dispositif pensons maintenant à mettre ses apprentissages au centre dispositif, et peut-être que la prochaine étape, on parle actuellement de FTLV, ça sera peut-être l'ATLV pour apprentissage tout au long de la vie, histoire de mettre en valeur le fait d'aller et de revenir à l'université pour y apprendre, et non pas parce que juste on y enseigne.
Oui, juste pour terminer, un élément aussi important, on n'a pas parlé pour l'instant, mais comme là on est arrivé sur cette notion d'hybridation, de distanciel, c'est le mode de rémunération des enseignants, enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que, voilà, on est actuellement dans un mode du tout présentiel, pour, du face-à-face, et si on veut réussir et entraîner nos collègues dans cette aventure, il va falloir qu'on invente de nouveaux... un nouveau moyen de les rémunérer, c'est-à-dire de décompter notre service d'enseignement. Ça, c'est une évidence. Alors, on le fait déjà au travers du référentiel d'activité des enseignants, enseignants-chercheurs, mais à un moment donné, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on se pose cette question, puisque sinon, on aura toujours des collègues qui arriveront à dire ben « Non, j'y vais pas, parce que moi, c'est du face-à-face, c'est mon mode de rémunération. » Voilà.
Donc, en gros, ce que je comprends, c'est qu'on aurait dû inviter plus que deux VP autour de la table, mais aussi des VPCA, des VPFC. Bon, ça donne des idées pour des suites éventuelles. En tout cas, merci à tous les deux. On voit bien dans ce que tu disais, Dominique, l'injonction de tenir en même temps la massification et l'individualisation. En somme toute, il semble bien que s'il y a un levier à faire jouer ici, c'est bien le numérique, pour pouvoir réussir à faire que ce ne soit pas une injonction, mais une complémentarité. Et quelque chose qui rend possible, tout en maintenant qualitativement une qualité d'apprentissage. J'ai bien aimé l'apprentissage tout au long de la vie. Faut apprendre, faut enseigner, faut faire que ce soit un cercle qui fasse du sens. Et donc c'est bien à ça qu'on travaille tous. Juste, on a peut-être une minute ou deux pour une ou deux petites questions de la salle. Pas tout de suite. Les micros arrivent, d'accord. Alors. Oui. Les injonctions, non, ça ne motive personne.
Alors, en attendant qu'il y ait une question, juste une petite remarque. Il y a actuellement, au sein de la FIED, la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, une réflexion sur justement la prise en compte de l'enseignement à distance, que ce soit dans la mise en place d'un dispositif comme dans le déroulement du dispositif. Donc, comment prendre en compte dans les services enseignants, parce que maintenant c'est possible, les enseignements à distance. Et j'engage tout le monde à s'intéresser à ça. Maintenant, la porte est ouverte. Et la porte est ouverte à tout.
Et tu as raison aussi de signaler que le mot distance est un faux ami dans la formation à distance. Tu parlais de distance temporelle versus distance géographique. Quand on regarde dans les centres d'enseignement à distance, là où sont domiciliés nos étudiants, souvent ils sont pas très 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 loin. Mais en fait, ils sont empêchés de présentiel par une activité professionnelle qu'ils mènent en même temps que leurs études, par des conditions de vie qui sont de plus en plus complexes et hétérogènes aujourd'hui. Et justement, on doit faire face à cette hétérogénéité et à la multiplication des demandes. Et tout à l'heure, Dominique, tu parlais de demandes qui pouvaient être soit de l'insertion professionnelle ou de la montée en compétences. On pourrait dire sécuriser les parcours professionnels également. Il faut répondre à toutes ces demandes-là. Et c'est bien ça aussi le sel un peu du concept de FTLV.
Un des éléments aussi importants, c'est on parle là de reprise d'études, des personnes qui reviennent, mais on a aussi nos étudiants classiques qui ne peuvent plus être là en permanence parce qu'ils ont un emploi à côté, hein, c'est une vraie réalité. Donc effectivement, eux aussi auront besoin d'avoir ces modes différenciés d'apprentissage.
Bien, alors entre-temps, il y a peut-être maintenant plus le temps pour deux questions, mais une... Ok, donc j'imagine que ça va arriver dans les ateliers cet après-midi, j'ai pas de doute là-dessus. Je vous remercie tous les deux, comme je vous le disais, ça donne des idées sur comment est-ce qu'on va pouvoir prolonger un petit peu ce dialogue et puis faire converger toutes les instances un peu décisionnelles de nos établissements autour de cette question de la FTLV, ce qui serait, je pense, la pire des idées serait de dire la FTLV. Alors, ça doit grosso modo être une préoccupation du VPFC, parce que ça ne se résume pas à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous imprégner tous. Et comme tu le disais aussi, Dominique, il y a quelque part la reconceptualisation de l'offre de formation qui est derrière ça. Merci à tous les deux.